Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat. Ah oui.
Il est 8h37, on est avec Pierre-René Lemas, président de France Active, ancien président de la Caisse des dépôts, Marc Ménazier, fondateur de Founders Future.
Bonjour
et
à tous.
Alain Pitou, consultant ESG. Merci à tous les trois. On a énormément de sujets pour vous. On va commencer par la planète.
Bah oui, la planète, il y a de l'espoir ce matin. C'est ce que nous dit le rapport du GIEC. Un document décisif a été publié hier soir. Un document dans lequel il y a un peu d'espoir. Il y a suffisamment de liquidités dans le monde. Il suffit juste de les réallouer correctement. Explication Alexandra Paget.
Difficile, mais pas encore impossible, et tout est une question d'investissement pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il faut multiplier par au moins 3 à 6 les flux financiers fléchés vers la préservation du climat d'ici 2030, dit le GIEC. Le volume de capitaux et de liquidités disponibles à l'échelle planétaire est suffisant, insiste son président. Et pour que l'action soit réellement efficace sur l'ensemble de la planète, les experts préconisent d'intensifier les transferts financiers du Nord vers les pays du Sud, les plus vulnérables, de 100 milliards de dollars par an. Selon les mêmes experts, une action globale visant à maintenir le réchauffement sous les 2 degrés Celsius n'aurait presque pas d'impact pour la croissance mondiale, de moins 0,04 à moins 0,09 points en moyenne par an sur la période 2020-2050 par rapport aux trajectoires sans atténuation. C'est même le contraire. Arrêter les nouvelles exploitations d'énergie fossile, investir dans les énergies solaires, éoliennes, les batteries au lithium par exemple, dont les coûts ont fortement baissé, rapporterait à terme plus économiquement que de ne rien faire.
Allez, on va commencer avec Marc Ménazier, puisque Founders Future, dont vous êtes le fondateur, c'est le premier fonds d'amorçage ESG en France, Bicorp en plus, Juillet, bravo. Est-ce que, faut y aller Marc, faut mettre plus d'argent dans...
Mais on n'arrête pas.
Bon. Il en faut 3-6 fois plus, nous dit le GIEC.
On mettra 3 fois plus parce qu'on pense que le moteur entrepreneurial qu'on finance dès le départ de l'aventure, c'est le meilleur moteur pour faire bouger les lignes, parce que c'est vrai que quand on regarde les industriels ou on regarde les pouvoirs publics, ça met trop de temps à bouger. Et donc moi, je rencontre dans mon bureau avec mes équipes tous les jours des entrepreneuses et des entrepreneurs qu'on est ravis de financer et qui se disent qu'on doit arrêter d'opposer business et impact. On a la chance d'avoir financé des grands succès de l'impact tout au début. Je pense à Yuka, que vous connaissez et qu'un certain nombre de Françaises et de Français utilisent. Je pense à La Fourche, qui est un supermarché bio en ligne. Je pense à Zenride, qui fait du leasing de vélos électriques pour les grandes entreprises.
Et dans l'énergie,
ça, c'est des grands succès.
Dans l'énergie, vous faites un peu d'énergie, Marc ?
On fait de l'énergie. On a notamment une entreprise qui s'appelle YesPark, qui est une marketplace de parking qui donc électrifie l'intégralité de son parc.
Qu'on avait reçu.
Voilà. Et surtout pour nos auditeurs et vous tous, l'évolution qu'on est en train de vivre et la transition énergétique qu'on est en train de vivre, et une des, que ce soit sur tout ce qui est rénovation énergétique ou électrification des prises, je le dis toute la journée à mes équipes, c'est l'une des plus belles opportunités business de la décennie.
Alain Pitous, le GIEC nous dit en fait la main le point est sur les investisseurs, c'est eux qui désormais doivent amorcer les projets, mais enfin la question c'est quand même les consommateurs et les politiques. Quand il n'y a pas de signal prix, que les consommateurs ne suivent pas, vous pouvez toujours investir.
Oui, exactement. Alors en fait pour l'épargne c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire qu'il faut que les investisseurs finaux décident de pousser les asset managers, les assureurs et INCO à faire des produits qui correspondent à cette demande du GIEC qui est logique. Hein, en fait, c'est mettre l'argent où il faut pour qu'on gère cette transition. Comme ils le disent, on a tout en main, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait le délai qu'on a devant nous.
On a même l'argent.
Et on a l'argent. Et donc, c'est une question de mobilisation de cet argent et c'est une question de demande des investisseurs finaux, avec aussi un élément qui est important, qui a pas mal changé ces dernières années, c'est l'aspect réglementaire qui flèche l'épargne quand même. C'est-à-dire que on y va à marche forcée quand même. Toute la réglementation européenne va dans ce sens-là et c'est sans retour. Ça aussi, c'est un point qui est important pour mobiliser les ressources vers ça.
Pierre-René Lemas, je vais vous faire reprendre votre ancienne casquette de conseiller des puissants. Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné loupé le coche en n'acceptant pas ce signal prix qu'on doit donner aux consommateurs, c'est-à-dire la taxe carbone? Il faut que les gens comprennent que tout geste non responsable entraîne la destruction de la planète.
Sur le fond, oui. Maintenant, on vient de loin quand même. Moi, je me souviens, quand j'étais à la Caisse des dépôts, puisque vous évoquiez des périodes plus anciennes, au moment de la COP21, on a pris l'initiative d'organiser ce qu'on appelait le Climate Finance Day.
Oui.
Je me souviens des premiers échanges avec la place de Paris. Mes homologues, collègues, confrères et néanmoins amis de l'époque, le scepticisme était total.
Ouais.
Le scepticisme était total.
Ils vous prenaient pour un extraterrestre.
Un peu extraterrestre. Et quand la Caisse des dépôts a décidé de flécher sur le green, personne ne trouvait ça raisonnable. On est beaucoup d'années après, le monde a changé. Il n'y a pas un ministre qui oublie d'aller au Climate Finance Day. Et j'imagine que ce sera pareil pour la prochaine COP. Voilà. Donc on a beaucoup changé. La réglementation a beaucoup changé. Maintenant, comme vous le disiez, tout ça est fléché. J'ajoute qu'il y a un laboratoire qu'on sous-estime beaucoup dans un pays comme le nôtre, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et tout ce monde de l'économie sociale et solidaire, en gros entre 12% du PIB, c'est un monde qui travaille beaucoup sur l'impact vert. Et voilà, le choix entre un investissement rentable et une rentabilité sociale ouverte, c'est un choix qui est déjà fait par ce petit monde-là.
Ouais.
Donc je pense qu'on a beaucoup avancé. Manque le signal prix, on est bien d'accord.
Alain Pitou, quand même, là, on est entre gens raisonnables. On va sauver la planète, mais la vérité, c'est pas celle-là. Quand vous voyez aux États-Unis le débat, les deux camps qui s'opposent maintenant entre ceux qui sont effectivement qui disent qu'il ne faut faire que de l'investissement responsable et ceux qui disent qu'il faut investir dans le pétrole, dans le gaz, parce que c'est là qu'est la demande mondiale. C'est aussi ça la vérité, c'est qu'on n'a jamais autant investi, on va jamais autant investir dans le pétrole que dans les prochaines années.
Alors ça, c'est effectivement un problème de fond de l'écologie et de ce qu'on doit faire pour la planète, c'est que c'est devenu un combat politique, alors qu'en fait, ça devrait dépasser largement ça.
Bah oui.
C'est-à-dire que vous êtes de droite, vous n'aimez pas les éoliennes, vous êtes de gauche, vous n'aimez pas le nucléaire. Enfin, on est dans des schémas comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le problème. Mais là-dessus, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, là, les citoyens vont pouvoir parler aussi, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui va se passer aux États-Unis sur les prochaines élections. Biden a mis quand même son veto pour empêcher que ce genre de loi passe, mais les sanctions vont tomber, c'est-à-dire qu'en fait on le voit, et c'est un peu peut-être une discussion qu'on aura après sur les banques, mais les banques il y a un filtre aussi sur les banques, c'est-à-dire que les banques n'ont pas une attitude très vertueuse vis-à-vis des hydrocarbures, et elles vont être sanctionnées de ça, c'est-à-dire que quand on les voit se traîner en bourse depuis des années, il y a un phénomène autour de ça. On parle des pétrolières, tout le monde dit qu'il faut investir dans le pétrole, mais si vous regardez Total sur longue durée, c'est pas un bon investissement. Donc ces genres de choses, alors on peut toujours le faire parce qu'économiquement c'est bien, mais juste un dernier point sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut investir dans le pétrole, mais les pétroliers eux-mêmes ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils rachètent leurs actions, ils n'investissent pas leur cash flow dans le pétrole. Donc pourquoi voulez-vous que l'épargne des particuliers aille vers ça?
Oui, mais le pétrole ou le gaz, regardez Biden qui autorisait l'ouverture de champs en Alaska alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas.
Oui, mais eux, ils font de la politique à 15 jours. Mais Biden, 2050, ce n'est pas trop son sujet, si je peux me permettre.
Oh, c'est cruel.
C'est cruel, mais c'est vrai.
Il a pris des risques.
Marc Ménazé, quand même, sur les fonds. Vous disiez, vous êtes le premier fonds d'amorçage ESG en France. On ne reçoit plus sur ce plateau que des fonds à impact. Ça existe encore, quelqu'un qui fait pas de impact aujourd'hui?
Ah non, je pense que ça a été dit précédemment, c'est qu'on ne peut plus opposer business et impact, et n'importe quel entrepreneur ou entrepreneuse qui se réveillerait pour lancer un business intègre de plus en plus, je dirais dans minimum deux tiers des cas, une notion de sobriété, de respect.
C'est pas, ce que veut dire Laure, c'est est-ce que c'est pas de l'habillage? C'est-à-dire est-ce que
impact, c'est large, hein.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Là où c'est quand même peu d'habillage, c'est qu'on est quand même dans un business qui est régulé, extrêmement encadré. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, et notamment toutes les sanctions qui tombent au quotidien sur le greenwashing. Et dans un business régulé, si vous avez envie de créer une marque qui dure en tant que fonds d'investissement, vous n'avez pas du tout intérêt à greenwasher. Parce qu'en fait, votre fonds de commerce, c'est les entrepreneurs que vous financez. Et dès lors que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le bon positionnement vis-à-vis de ces gens-là, vous perdez votre fonds de commerce, puisque les gens n'ont plus confiance en vous. Donc je dirais, oui, il y en a toujours, comme ça s'est passé dans la finance depuis toujours, mais je dirais que ceux qui durent et ceux qui sont là, qui ont pignon sur rue et qui ont de l'attraction, c'est ceux qui font bien leur métier.
Juste pour avoir une idée en termes de flux, Alain, aujourd'hui, l'investissement ISR, ça représente quoi dans l'asset management?
Alors aujourd'hui, c'est à peu près la moitié et c'est 80% des flux.
Ah oui.
Donc, bah oui, parce qu'en fait, là aussi, la réglementation a joué. C'est-à-dire, vous savez, ces histoires de réglementation, il y a vert, vert clair, vert foncé. Le non vert, on va dire, se vide. Donc, il suffit d'attendre encore quelques années et il y aura plus d'investissement.
Mais il y a une course contre la montre. Vous dites, il suffit d'attendre, mais le GIEC dit qu'il faut faire deux, trois fois plus d'ici 2030.
Oui. Alors là, c'est ça le problème. Et on évoquait donc les investissements impact. On disait, est-ce qu'il y a encore des investisseurs non impact? les fonds de private equity, il y en a encore qui n'en ont strictement rien à faire de ça. Ouais, c'est-à-dire qui sont dans un autre monde. Alors c'est vrai, c'est surtout vrai aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, mais il y a encore quand même la finance et encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand même, on voit des gens qui, pour qui c'est indifférent.
Oui, il y a du chemin à faire. Non, franchement, il y a du chemin à faire.
Dans les montagnes.
On avance dans l'equity, on est quand même très 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 loin du compte, hein, dans l'état actuel des choses. Ouais. Les grands fonds d'investissement, je fais la différence entre ceux qui sont à la recherche d'une clientèle et qui, voilà, et qui sont volontaristes. Enfin, les grands fonds d'investissement font des calculs savants, où sur le même type d'investissement, vous passez du vert très très clair, c'est-à-dire du gris marron, à du vert un peu clair, et vous avez fait un progrès considérable. Donc pour passer du côté du vert foncé, avec toute cette réglementation européenne, sous forme d'article 8, article 9, etc., il y a encore franchement beaucoup de chemin. Et je crois que la réglementation, à mon sens, hein, on a intérêt à, au niveau européen, la muscler encore un petit peu. D'autant que, qu'est-ce que c'est qu'un investissement vert ? Si vous regardez la réglementation européenne, vous pouvez y mettre beaucoup de choses. C'est comme toujours à l'anglo-saxon, ça c'est de la soft law. Vous savez l'objectif, mais vous ne savez pas par quel chemin passer.
Mais les sanctions vont tomber là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les assureurs qui se retrouvent à devoir financer des aléas climatiques massifs, la facture tombe. Donc,
réparer coûte plus cher,
voilà,
c'est ce que
je disais. Bien sûr, de toute façon, donc, ça c'est mécanique. Donc ne serait-ce que préserver leur patrimoine financier, on va dire, va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus significatif.
C'est bien, Alain fait confiance à la main invisible du marché pour nous sauver de la terre qui brûle. Bon, on va d'abord se sauver de la crise financière.
Avant d'investir dans le vert.
Est-ce qu'on a réussi à éviter la crise bancaire ? Les marchés se sont calmés hier. On verra tout à l'heure à l'ouverture de Paris quel est le climat. On était tout à l'heure avec Véronique Riche-Flores, l'économiste, qui était quand même pas si optimiste que ça. Écoutez-la.
Les études qui commencent à être publiées sur la situation des petites banques ou des banques de moyenne taille aux États-Unis sont quand même très claires. Les risques sont là. Et tout ceci prend effet dans un environnement d'hyperendettement mondial considérable qu'on n'a jamais connu, d'exposition aux risques également souvent extrême. Donc je peux pas vous dire cette crise est finie. En fait, tout ce qu'il faut et les moyens sont là. Et je pense que la prise de conscience des risques, effectivement, est réellement là. On a quand même l'impression que toutes ces actions devraient porter leurs fruits au moins à brève échéance. La question, c'est est-ce qu'on n'a pas dans un mois, dans deux mois, un nouveau stress et une crise récurrente ?
Bon, il y a les aspects bancaires et puis il y a aussi les aspects tech. Marc Ménazé, vous, quand SVB a commencé à un petit peu tanguer, vous avez passé un sale week-end ou pas ?
Très mauvais week-end. On a à peu près chez Founders Future de l'ordre à peu près un peu moins de 10% de nos actifs aux États-Unis dans des boîtes qu'on a financées ou cofinancées en amorçage. SVB est présent à tous les étages, très en amont dans l'écosystème. C'est un acteur exceptionnel puisqu'on est un acteur en fait qui est industriellement avait très bien compris la tech et donc savait accompagner les entrepreneurs de la tech, d'ailleurs d'un point de vue perso et d'un point de vue pro, très en avant. Donc si avant que ça arrive, si vous m'aviez dit est-ce que SVB il y aurait un problème un jour, j'ai too big to fail. Voilà. Ce week-end on l'a passé, ça a été terrible pour une raison très simple, c'est que les entrepreneurs de la tech, ils ont une mauvaise compréhension du système bancaire et ils n'ont pas de culture de la relation bancaire, c'est-à-dire ils ouvrent un compte et ils mettent tout leur argent sur un compte et puis de toute façon c'est pas un sujet puisque le sujet c'est de développer leur business et comme ils ont pour la plupart, pour qu'à 90% jamais connu de crise, bah ils se disent que ça peut pas arriver. Donc ça c'était le premier point et le deuxième point c'est qu'aux États-Unis vous savez on paye les salaires
deux fois par mois, ou quatre fois,
ou par semaine et donc on s'est retrouvé dans un contexte si vous voulez, ou des entreprises techniquement pouvaient pas payer leurs salariés, ce qui est quand même un vrai problème, particulièrement dans un marché qui est, comme vous le savez, toujours, même si on dit très tendu au niveau RH.
Là, vous êtes rassuré ou vous dites c'est quoi le prochain maillon faible ?
Non, je suis plutôt rassuré parce que vous savez que la crise dans la tech a commencé bien avant sur le financement en equity, donc vraiment les levées de fonds. Là, on a eu une crise bancaire, donc du côté, je veux dire, des sous et de l'argent, on a à peu près tout vu, voilà. Et le marché, quand même, je tiens à le dire, sur notamment le financement aux États-Unis est en train de se reprendre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Pierre-René Lemas, problème d'SVB, problème particulier de mauvaise gestion et puis de réglementation, problème Crédit Suisse, problème particulier, on n'est que sur des problèmes particuliers ?
Le marché est tellement moutonnier que il suffit, on sait bien quoi, hein, d'un vol de moineaux pour que tout le monde s'affole. Et... moi, je crois que oui. C'est la situation de SVB particulière. Maintenant, les premiers éléments d'analyse sont faits sur la gestion de l'établissement et notamment sa gestion d'actifs imprudentes. Bon, donc on commence à voir du côté du Crédit Suisse. Écoutez, le mariage entre le Crédit Suisse et l'USB, c'est un serpent de mer depuis 10 ans. Et vu les difficultés qu'a connues le Crédit Suisse. De toute sorte, depuis quelques années, qu'on arrive à cette situation, finalement, c'était sans doute un peu inéluctable. En sachant d'ailleurs que, en termes de contentieux, tout ça n'est pas fini, pour toutes les raisons qu'on connaît, d'obligations convertibles en actions.
Bref. Bah oui.
Donc,
tout
ça n'est pas achevé. Voilà, c'est pas complètement fini. Mais tout ça, à mon avis, n'a rien à voir. C'est très particulier. Je pense pas qu'il y aura d'extension, par exemple, aux finances européennes en général. On n'est pas dans le même système. J'ajoute quelque chose, c'est que toutes les réglementations de type Bâle III qui s'appliquent strictement en Europe, où on ne déroge jamais à la moindre règle ni à la moindre virgule, comme d'habitude, les Américains qui imposent une règle à l'ensemble des marchés...
Ils dérogent
le lendemain matin.
Bah oui.
Donc depuis 2018, les banques régionales notamment, n'ont pas les obligations de liquidité et de solvabilité qu'on impose à tous les autres. Moi, je ne suis pas affolé.
À 15 jours, on a réglé le problème parce qu'on a mis énormément de liquidités. D'ailleurs, les marchés remontent parce qu'on aime bien ça. Hein. C'est assez simple, les marchés financiers, par rapport à ça. Après, je pense qu'on a quand même créé des sujets qui vont devoir être réglés à un moment ou à un autre. Le premier, c'est effectivement la problématique des obligations. On se retrouve avec des obligations qui sont rincées avant des actionnaires.
Bah oui.
Donc ça, c'est quand même un peu un problème. C'est pas fini.
Ouais.
On a un problème d'intégration d'UBS avec Crédit Suisse. Ça, c'est pas un sujet très facile. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a deux points qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le premier, c'est la garantie des dépôts qui change complètement le business des banques. Ça, c'est quand même un truc qu'il va bien falloir, à un moment donné, avoir à l'esprit. Ça veut dire quoi, si on se projette un peu? C'est plus de réglementation. Et alors, le fléchage, là, il va être massif, parce qu'en fait, l'allocation active-passive va être dirigée par les États qui vont dire, si on garantit vos actifs, vos dépôts, et qu'on laisse donc vos clients arriver chez vous, on veut une contrepartie qui va être le fléchage massif de ça. Donc ça,
vers quoi? Vers l'investissement vert, par exemple?
Mais typiquement, enfin, moi, je pense que c'est une manière de
verrouiller.
Ah oui, donc on va dire aux banques, désormais, vous investissez dans,
Ça va être,
dans ce que vous dites.
Si vous voulez qu'on garantisse les dépôts de vos clients.
Alors après, ça, c'est un autre sujet plus philosophique, c'est le rôle de l'État là-dedans, donc ça, c'est quand même un autre sujet. Et après, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé ce week-end, c'est l'attitude des banques centrales. Parce que quand les choses sont graves, les banques centrales sont capables de se réunir le week-end très rapidement pour faire quelque chose de massif. Là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer pour le vert un jour, c'est-à-dire que quand les choses vont devenir graves, qu'on puisse se mettre autour de la table.
Allez, on finit par une question, puis on enregistre. La hausse des taux demain par la Réserve fédérale, 0, 0,25, 0,50
Ça a l'air d'être 0,25, je pense.
0,25.
J'en sais rien.
0,25
25.
Bon, on avait ce matin, justement, Véronique Flores qui disait 0.
C'est pour ça que je dis j'en sais rien. C'est entre. Non, non, mais je me mouille pas, parce que je pense qu'ils doivent être en train de se faire des nœuds dans la tête.
Ah oui, d'un côté, ils envoient des liquidités et
l'équilibre.
Ils peuvent pas resserrer les taux en même temps.
C'est quand même dernière de chose aussi, c'est le roi dollar. Hein, c'est-à-dire que tout se règle en dollars. Hein, c'est-à-dire que l'attitude des banques centrales, c'est quand même aussi avec un élément qui est de dire, bon, vous arrêtez vos histoires locales, c'est le dollar qui prime. Donc tout ça remet les choses à leur place.
Oui, mais le manque, c'est celui du dollar en ce moment.
Merci à tous les trois d'être venus débattre avec nous.